Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Ce soir, on accueille Michael Provost. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Vous venez pour votre livre « L'expérience de l'oppression », sous-titré « Une phénoménologie du sexisme et du racisme ». C'est paru aux Presses universitaires de France. Michael Provost, vous êtes agrégé docteur en philosophie de Paris 1 et en post-doc à Bruxelles. Je ne sais pas si ça se dit, ça. La rencontre sera modérée ce soir par Mathieu Renaud. Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes maître de conférence à Toulouse en philosophie. Vous avez fait paraître récemment avec Olga Bronikova un livre consacré à Alexandra Kollontai. C'est aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup, bonne soirée.
Donc j'allais présenter Michael, mais je ne vais pas le faire parce que tu viens de le faire. On va discuter ce soir du livre qui est issu de sa thèse « L'expérience de l'oppression, une phénoménologie du racisme et du sexisme » publié au PUF en 2023. Un livre qui me paraît précieux à un triple titre. C'est tout d'abord, et c'est peut-être pas ce dont on va le plus parler ce soir encore, que je ne sais pas, une contribution à ce qu'on pourrait appeler une histoire minoritaire de la philosophie centrée sur des figures et sur les œuvres de personnes comme Simone de Beauvoir, dont il y a Frantz Fanon, dont il y a des analyses approfondies, qui sont peut-être les deux protagonistes principaux du livre, mais aussi Richard Wright, des écrivains comme Richard Wright ou encore Audre Lorde. C'est ensuite, deuxième point, une introduction et une intervention dans le champ encore méconnu en France de la phénoménologie critique, qui met au centre de sa réflexion les expériences vécues du racisme et du sexisme. C'est enfin, de manière peut-être plus discrète mais non moins importante à mon sens, une invitation à repenser les stratégies de lutte, de résistance contre l'oppression à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, et j'aurai des questions là-dessus. Alors ce qu'on a proposé de faire, plutôt qu'une présentation dans un premier temps et une discussion de ma part, de faire directement un échange entre nous deux avant d'ouvrir aux questions du du public. Je ne sais pas combien on a de temps pour cela, mais on verra bien. Voilà, on va commencer. Je vais commencer par une question assez générale, savoir si tu pourrais revenir sur ton parcours, ce qui t'a amené à construire ce projet, qui était un projet de thèse, mais qui est devenu un livre ensuite, et les inflexions qu'il a pu connaître au cours de sa réalisation, et une question liée. Je ne suis pas sûr que la tradition phénoménologique en philosophie soit familière à tout le monde ici. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'elle est susceptible, selon toi, d'apporter de nouveau, de différent et d'original aux réflexions sur le racisme et le sexisme?
Merci beaucoup déjà à la librairie, merci à Baptiste pour l'organisation et merci à Mathieu pour la modération de la rencontre. Et merci à vous d'être venu. Je suis très heureuse d'être ici. C'est une librairie dont j'avais beaucoup entendu parler et c'est vrai que c'est magnifique. Donc je suis très contente de pouvoir discuter ici dans ce cadre-là du livre. C'est un livre qui est issu de ma thèse que j'ai soutenue à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en septembre 2022 et que j'ai réécrit en fait pendant une année, après la soutenance. Dans cette thèse, je pense que le point de départ, c'était une sorte d'intuition très forte qui est mienne, que ce qui est le plus intime, donc le plus ordinaire aussi, est politique. Et que donc, tout part d'une certaine manière de l'expérience. Mais après, ça va être un des enjeux de savoir ce qu'on entend par expérience. Mais voilà, cette idée que... qu'il n'y a pas de politique en fait sans expérience et sans un travail aussi sur ses affects, sur ce qu'on vit de façon intime, sur ce qu'on traverse de façon très ordinaire en fait dans la vie. Et ça, cette intuition, elle vient vraiment de mon ancrage féministe, avec cette conviction quand même dans l'histoire des mouvements féministes, que le privé est politique et que dire ça, c'est en un sens révolutionnaire. Et du coup, le mouvement féministe tient cette intuition-là et ne lâche jamais sur cette intuition. Et moi, c'est ce qui me plaît dans les textes féministes que je rencontre, donc plutôt un héritage du féminisme matérialiste des années 60-70. Mais en fait, la transformation de soi, la transformation de son corps, de ses affects, des manières d'aimer, les manières de travailler, de penser, le rapport qu'on a au monde, en fait, tout ça, c'est à la fois très ordinaire et en même temps éminemment politique. Et la politique commence à partir de là. Et du coup, cette intuition-là féministe, elle était très forte, très importante pour moi, qu'il n'y a pas de distinction, en fait, entre des grands problèmes de stratégie, donc on y reviendra, et la transformation d'une expérience d'oppression qu'on vit ou d'une expérience de violence. Il y a pas, il faut absolument en fait tenir cette idée que voilà, il y a pas de problème négligeable en fait. Il y a pas de petits problèmes anodins. Il y a des choses qui se jouent, il y a un potentiel aussi révolutionnaire dans cette question de transformation de l'expérience à un niveau très intime et très ordinaire. Bon, après, toute la question, ça va être de savoir ce qu'on entend justement par expérience, et tout dans notre vie n'est pas politisable. Tout ne constitue pas une expérience justement qui va être le levier d'une mobilisation politique. Donc ça, c'est une autre question. Mais du coup, donc voilà. Moi, mon intuition de départ, c'était ça. Mon ancrage, il est féministe avant d'être antiraciste. Ça vient de mon parcours personnel. Et ensuite, j'ai rencontré donc les questionnements antiracistes en cours de route, sachant que j'étais déjà dans un ancrage féministe qui articulait quand même la question de la classe et la question de la race, mais de façon plus annexe. Mais du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait rencontrer les questionnements antiracistes, sachant que donc ça, c'est un des enjeux, enfin c'est un des points du livre, c'est qu'il n'y a pas non plus de réconciliation si évidente entre le féminisme et l'antiracisme, au sens où les textes que je travaille, par exemple, ne proposent pas forcément d'expérience intersectionnelle. Donc c'est souvent un modèle d'analogie. Et du coup, moi, je travaille sur des textes qui sont féministes, par exemple ceux de Beauvoir, qui ne vont pas prendre en charge directement la question de la race. Enfin, en tout cas, dans le deuxième sexe, c'est comme ça. Et Fanon ne prend pas centralement en compte la question du genre dans ses écrits. Donc en fait, il y a eu cette sorte de rencontre des questionnements antiracistes, mais sans forcément une articulation si évidente. Et du coup, ça, j'ai essayé d'en faire un problème aussi pour moi, un problème politique. Et un problème dans le travail. Et pour le livre, du coup, c'est vrai que la fin de la thèse m'a quand même libérée d'une certaine manière de beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a eu des inflexions. Je ne sais pas si elles sont très perceptibles, en fait, mais moi, je les sens. Avec quand même cette idée d'une intrication entre oppression et liberté qui est beaucoup plus forte que dans ma thèse. En fait, en ayant fini la thèse, je me suis rendu compte que oui, si je travaillais sur l'oppression, c'est que je voulais aussi dessiner des voies de résistance possibles, comme tu disais. Et donc, il y avait cette intrication entre oppression et liberté, au sens où on est opprimé parce qu'on est libre aussi et qu'on est affecté par une situation de violence. Et donc on y résiste d'une certaine manière, et donc que cette recherche de liberté, cet approfondissement de la liberté, il est au cœur de cette expérience d'oppression. Et ça, je pense que c'est un déplacement quand même par rapport à la thèse, où je tenais pas à ce point cette question d'une égalité des libertés, en fait. Et l'importance aussi de sortir de ce que j'appelle dans le livre un récit de l'aliénation, cette idée que ou un récit de la domination avec un raisonnement très tautologique où on a l'idée que les gens sont dominés parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur domination et que la situation se perdure, elle se perpétue, et du coup on est dans un cercle et on n'en sort pas. Et du coup, pour moi, le concept d'oppression, voilà, ça nous faisait sortir de ça. Et bon, peut-être d'autres pistes un peu différentes par rapport à la thèse que j'ai essayé d'explorer dans le livre, c'est d'avancer vraiment dans la direction d'un croisement de la question de la sexualisation de la race, par exemple, ou de la racialisation de la sexualité, notamment dans les écrits de Fanon. Et ça, c'est quelque chose des questions vers lesquelles j'aimerais bien aller par la suite. Donc, voilà, pour les inflexions, c'est un peu ça.
Pourquoi la phénoménologie ?
Oui, pourquoi la phénoménologie ? Eh bien, parce que, justement, il y a cette élucidation de l'expérience, en fait, de l'expérience vécue, qui est quand même au cœur du corpus, qui est au cœur de la tradition phénoménologique, avec des récits en première personne. Donc ça, c'est un premier point très important d'explorer le rapport au monde, le rapport qu'on a à l'espace, le rapport qu'on a au temps, le rapport qu'on a à son propre corps, la façon dont les choses du monde nous apparaissent. Donc tout ça, ça nous donne des outils en fait pour élucider cette question de l'expérience et aussi la subjectivité. Qu'est-ce qu'on entend par... par la conscience, qu'est-ce que ça veut dire en fait au sens propre d'avoir conscience d'une situation de violence, comment parler de la subjectivité, donc voilà, avancer un peu plus dans ces concepts-là. Et j'emploie phénoménologie en un sens proche de pensée existentielle en fait, c'est quand même assez lié. Et du coup la pensée existentielle je pense est très importante aujourd'hui, pour comprendre cette corrélation entre oppression et liberté, et pour redonner en fait un peu de souffle aussi et de redéployer des possibles. Le questionnement quand même de Beauvoir et de Fanon, c'est comment changer la vie en fait aussi en ce qu'elle a de plus ordinaire, comment changer son corps, comment changer le rapport aux autres, le rapport au monde. Donc il y a quelque chose de fort, en fait, de ce point de vue-là, je trouve.
Est-ce que tu voudrais revenir un petit peu sur le concept d'oppression qui est dans le titre, qui est là dès le début de l'introduction, que tu opposes, ou en tout cas que tu distingues de celui de domination. Et la question que j'ai, qui est liée à celle-là, c'est... Je me demandais qu'il reste un troisième terme quasiment à côté de l'oppression et de la domination, qui est une catégorie classique dans la pensée marxiste, qui est celle d'exploitation. Savoir si tu fais quelque chose, c'est aussi la question du travail qu'il y a derrière ça, qui finalement est importante chez Beauvoir aussi, de cette manière. Mais bon, c'est pas que le travail, l'exploitation. Donc la question de l'exploitation, est-ce que les questions de classe... peuvent se penser de la même manière en termes d'oppression que quand tu parles d'oppression de race ou de sexe, genre, et bon, ou est-ce qu'il y a une forme distincte de manifestation de ce que j'aimerais bien appeler la domination, mais que j'évite pour pas de la force violence. La domination, pour moi, a quand même cet avantage d'être un terme absolument pas précis, mais ce qui peut être un avantage aussi, un terme très générique qui permet de mettre beaucoup de choses différentes même.
Oui, donc ça s'appelle l'expérience de l'oppression. Et du coup, l'idée, c'était de travailler à partir de ce concept qui est hyper important dans l'histoire des luttes féministes et antiracistes, notamment des années 60-70, donc en France ou aux États-Unis. C'est un terme qui est très mobilisé dans les discours, dans la parole, dans les textes, même militants. Et du coup, moi, l'idée, c'était moins de faire une sorte de distinction tranchée entre ce que serait la domination de façon définitive et ce que serait l'oppression de façon définitive, que de montrer que quand on parle d'oppression, c'est une certaine manière de parler du pouvoir, de le montrer, de le rendre sensible, parce que justement, c'est un terme qui part d'une expérience vécue avec toute cette sonorité du mot, en fait. Ça renvoie une sensation d'étouffement, un peu de confinement, de quelque chose d'assez insupportable, en fait. Et du coup, dans ce point de vue-là, il y a quelque chose qui s'exprime. Et du coup, pour moi, c'était ça, en fait. Mobiliser ce concept, non pas pour le distinguer de façon très tranchée de la domination, mais pour montrer que c'était une manière de parler du pouvoir. Et que cette manière de parler du pouvoir, eh bien, elle s'ancrée justement dans l'expérience vécue et dans le point de vue des personnes qui vivent une situation de violence et qui vont l'exprimer. Et du coup, il y a une position en fait, d'énonciation qui se fait à ce moment-là, qui change complètement notre manière d'envisager les rapports sociaux, parce que du coup, on n'est pas depuis un point de vue comme ça, un peu surplombant ou extérieur, en troisième personne. On essaie de voir ce que ça fait justement qu'il y ait une position d'énonciation nouvelle qui exprime la réalité d'une oppression sociale. Et du coup, ça, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, théoriquement et sensiblement, ça donne à voir des sujets qui s'affirment en fait dans l'énonciation d'une violence qui leur est faite. Et du coup, ça nous sort aussi de la position victimaire qui peut être renforcée par certaines formes de théorisation. Donc pour moi, c'était une manière de mettre en scène les choses différemment et d'introduire une sorte de différence théorique et de montrer que les mots qu'on emploie sont pas anodins et que du coup ça met en scène en fait d'une certaine manière et du coup l'oppression pour moi ça replace une sorte d'égalité parce que le sujet qui exprime ce qu'il ressent il s'affirme aussi comme sujet détenteur d'un savoir sur la situation de violence qui lui est faite, détenteur d'une certaine perception. Donc il n'est pas sans cesse parlé, objectivé, regardé de loin. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une pensée des résistances ou d'une pensée émancipatrice qui se met en place à ce moment-là. Donc voilà, la distinction que je ferais, ce ne serait pas au niveau des situations objectives. Même si après, le terme d'oppression, de toute façon, il est chargé historiquement. Enfin, on parle d'oppression coloniale. Donc, il y a quelque chose de... Il est inscrit dans une histoire aussi, dans des usages du langage. Mais moi, l'idée, c'était de montrer que... Enfin, d'en faire un concept, en fait. Montrer que c'était aussi une certaine manière d'envisager l'égalité des sujets et de prendre au sérieux la parole des personnes qui s'expriment au moment même où leurs efforts pour exister sont mis en danger quoi. Et du coup par rapport je dirais que c'est un peu la même chose avec le concept d'exploitation, c'est qu'en fait je trouve que c'est un concept qui est quand même moins fort, qui a moins de résonance, en même temps il y en a beaucoup qui le défendent, mais je sais pas, je trouve qu'au niveau de la résonance ça donne pas à voir la même chose. Et là encore, je veux pas dire que une situation d'oppression serait foncièrement différente d'une situation d'exploitation. Et dans les exemples que je mobilise, en fait, chez Richard Wright, du coup, ce que vit Bigger Thomas dans Native Son, c'est une situation d'exploitation, enfin, qui est liée à la race et aussi d'oppression. Donc, en fait, on peut pas vraiment distinguer les deux. C'est juste que dans la résonance du terme, je trouve que ça charrie pas les mêmes choses. Et que le terme d'exploitation nous maintient un petit peu dans une situation d'extériorité où on va analyser les rapports sociaux et les considérer en troisième personne, mais sans que ça charrie en fait toute la charge affective, aussi de souffrance, de sensibilité qu'on a avec le terme d'oppression lui-même.
Dire qu'ils sont en fait, ils sont pas exclusifs parce qu'ils se situe pas exactement sur le même plan en fait, c'est de la mise en scène. Tu peux le
oui c'est ça,
poserai de la question de savoir s'il peut y avoir de l'exploitation sans oppression et inversement, mais bon
ouais. Et d'ailleurs en fait dans la pensée marxiste l'oppression est toujours un peu seconde par rapport à l'exploitation, enfin
Je saute la question que j'avais préparée, qui est plus une question j'y reviendrai peut-être plus tard si on a le temps, mais c'est peut-être pas la principale, qui est un débat avec la phénoménologie, mais une notion centrale mais de la phénoménologie. Mais je reviens sur autre chose, sur l'usage que tu fais ponctuellement, mais qui est important, il me semble, dans le texte d'œuvres littéraires, bien sûr, mais bon, chez Richard Wright, mais de toute façon, dans la littérature antiraciste, enfin dans la pensée antiraciste, ne pas faire usage de littérature, c'est quand même un petit peu difficile, je pense, mais de manière bon, plus surprenante, mais c'est l'usage cinématographique, notamment des analyses que tu développes autour du film de Barbara Loden, Vanda, que je n'ai pas encore vu, donc voilà, mais qui, selon toi, donne à voir, en fait, mieux que toute description philosophique, on pourrait dire, l'expérience vécue du sexisme dans sa quotidienneté ou dans sa banalité, dans son insignifiance même. Est-ce que tu veux revenir sur cet exemple et ou sur d'autres que tu as mobilisés ou que tu pourrais mobiliser dans le cinéma? Est-ce que ce qu'il apporte, ou la littérature également, ce qu'apporte la littérature et le cinéma à la compréhension des mécanismes de l'oppression, plus encore sur la... Mais bon, en fait, c'est mal diffus ce que tu viens de dire, ce que j'allais dire, aux mécanismes de l'oppression et à la saisie de leur contrepartie subjective et vécue, mais d'après ce que tu viens de dire, de toute façon, on ne peut pas penser l'oppression indépendamment de la subjectivité opprimée. Donc, bon, voilà ce que ça permet de comprendre. Quel usage t'en fais de ce corpus-là, littéraire et cinématographique?
Bah, du coup, le film, moi, de Barbara Loden, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est son seul film, en fait, qu'elle a fait en 1970. Je ne sais pas si vous voyez qui est... C'était la compagne d'Elia Kazan. Et donc, elle a fait ce film-là en jouant le personnage qu'elle met en scène. Donc, elle joue Vanda et c'est aussi un peu sa vie, donc son rapport avec Elia Kazan, etc. Et du coup, il y a quelque chose où elle s'implique complètement dans son œuvre. Et le film est magnifique parce qu'en fait, c'est une mise en scène d'une forme de féminité, d'impuissance radicale. Enfin, une femme qui, pour le coup, qui est complètement exploitée par le système capitaliste dans les États-Unis des années 70, en Pennsylvanie, je crois. Et en fait, c'est une figure d'impuissance radicale. Elle se prend coup sur coup, elle perd son job, elle divorce, elle perd la garde de ses enfants, etc. Donc en fait, elle se prend que des claques. Et en même temps, on n'a jamais cette position-là victimaire. Enfin, elle incarne une forme de, malgré tout, de force, de solitude, de dignité, qui, à mon sens, est liée au fait que c'est parce qu'elle est jouée par la réalisatrice. Que on ne peut pas. Elle inspire aucune pitié en fait. Elle inspire pas de pitié. Elle est pas en position de victime. Et du coup, pour moi, ça mettait un peu au jour ce que j'avais envie de travailler avec cette idée d'oppression, c'est qu'en fait, dans l'aveu même d'une impuissance, il y a une capacité à tenir et à résister qui émerge. Et du coup, qui créer cette sorte de corrélation existentielle entre ce qu'est l'oppression, les effets d'aliénation que ça produit et tout, et en même temps le fait que c'est un sujet qui reçoit tout ça et donc qui se tient quand même debout et donc qui incarne quelque chose. Et ça, c'était important pour moi, et je pense que oui, dans la littérature, dans le cinéma... Il y a une manière de faire voir ce qu'est la violence qu'on ne peut pas forcément saisir par des analyses philosophiques ou phénoménologiques. Il y a une manière de rendre sensible certaines choses qui est très importante. Et en fait, c'est drôle parce qu'après avoir... Du coup, fini l'écriture du livre, je me suis un peu plongée dans Rancière, que j'avais jamais lu avant. Et ça a été une sorte de révélation extrêmement importante pour moi, en fait. Sa manière de tenir sur un même plan ce que fait la pensée des images, ce que fait la pensée de la littérature et ce que fait la philosophie, et sans jamais hiérarchiser, sans jamais faire des sortes d'articulations comme ça un peu forcées. On va prendre un exemple littéraire pour illustrer quelque chose. Enfin, c'est jamais illustratif, c'est un travail sur d'esthétique, quoi, de la manière dont le montage, la manière d'agencer les sons, les couleurs, tout ça, et bah c'est encore une fois une mise en scène aussi de la violence et du coup un certain point de vue sur une situation qu'on veut penser. Et du coup, voilà, j'ai découvert un peu tout son travail et ça m'a confirmé dans l'idée que j'avais pas envie que ce soit juste illustratif, mais du coup, il faudrait que je travaille beaucoup plus ma culture cinématographique et puis mon approche esthétique pour essayer d'aller un peu plus loin dans ces directions-là.
Non, j'en viens à la question critique, mais tu as été un peu... en fait, à laquelle tu vas sans doute répondre, mais en plus, tu avais un peu prévenu. Il y a quelque chose dont tu fais usage, auquel tu fais référence, évidemment, dans ton travail, c'est les théories ou épistémologies du standpoint, dans la théorie féministe, la théorie du point de vue ou du positionnement, et tu l'utilises notamment pour montrer que chez celles et ceux qui en font l'expérience, l'oppression engendre aussi, non pas que de la souffrance, mais aussi un savoir particulier, des affects, comment c'est particulier, mais un savoir particulier, et des modes de pensée irréductibles à ceux de l'oppresseur. Mais il me semble que tu n'adoptes pas, en tout cas je ne l'ai pas vu dans le livre, une approche qui serait symétrique vis-à-vis de philosophes que tu utilises malgré tout beaucoup, comme Sartre et Merleau-Ponty. Au sens où ça serait une approche qui soulignerait les limites, aussi, les écueils induits par le fait qu'eux-mêmes avaient une position qui leur était propre au sein des rapports de genre et de race, de la même manière que Fanon avait pu le faire, par exemple, à propos des analyses de Sartre sur le rapport à autrui. Fanon le fait dans Peau noire, masque blanc, en disant, en fait, ce qui décrit Sartre dans le rapport à autrui, c'est le rapport entre deux blancs, et ça ne marche pas pour le rapport entre un blanc et un noir. Voilà, des types d'analyses de ce type-là. Ou comme des théoriciennes féministes ont pu le faire à propos du primat perceptif de la vision dans la phénoménologie de Merleau-Ponty, en tant qu'elle exprimerait, qui serait une variante de du regard masculin, de la prédominance du regard, prédominance masculine du regard. Alors je ne veux pas dire que ces philosophes, Sartre et Merleau-Ponty, il faut les réduire à leur statut d'homme, de blanc et d'oppresseur, mais... En même temps, je pense qu'il ne faut pas leur accorder ce qui est une illusion, en fait, prétention ou une illusion typique, philosophique typique, qui est de, voilà, il y en a qui seraient au-dessus du champ de bataille, comme eux, on leur accorderait une neutralité, ils ne seraient pas engagés comme Fanon et Beauvoir pouvaient l'être immédiatement sur le champ de bataille des rapports de genre, et eux, ils seraient au-dessus. Alors, dans quelle mesure tu les utilises différemment, comment les mettre sur aussi, quand tu disais à un instant sur l'esthétique, mais comment les mettre vraiment, les égaliser, tout mettre à plat pour pas reproduire ce qui a longtemps été fait avec Fanon. En fait, Fanon, c'est le Sartre noir, quoi. Des choses, des mécanismes de ce type là qui font qu'on a tendance à voilà. Malgré toute la critique qu'on fait, il y a le grand philosophe qui pense le général et les autres, mais j'ai bien compris que c'est pas ce que tu fais, mais c'est juste sur le. Voilà, comment éviter ce type de choses.
Oui, en fait, j'avais pas forcément envie de m'avancer trop loin dans une critique des biais, sexistes chez Sartre ou chez Merleau-Ponty, parce que, oui, ça serait long. Et puis, j'étais aussi dans un moment où, pour le coup, j'en avais un peu... assez de Beauvoir et tout, donc je sais pas, je retrouvais un truc quand même d'assez radical, enfin politiquement chez Sartre et aussi chez Merleau-Ponty quand même, même dans sa conception du corps, en fait c'est jamais le corps d'un homme blanc, en fait il y a toujours le corps des enfants, des fous, de gens fatigués, enfin donc c'est quand même bon, il y a un effort voilà, d'élargissement quand même à différentes expériences. Et ces critiques, c'est vrai qu'elles ont beaucoup été faites par les féministes et tout. Et je pense qu'elles sont importantes, mais il y a aussi un effet un peu d'épuisement à toujours se centrer sur ce qu'on reproche à certains textes dans l'histoire de la philosophie. Enfin, je sais pas si tu vois... ce que je veux dire, mais...
Mais Fanon faisait l'un et l'autre à la fois.
Ouais.
À la fois la critique, plus l'usage, plus la transformation.
Ouais, ouais, ouais.
Il n'allait pas dire Sartre, c'est ça, c'est pas bon.
Oui.
En fait,
oui.
Il le critique pour le réutiliser autrement. Mm. Il y a toute une stratégie. Mais c'est vrai qu'il y a tout un... C'est un champ qui est vraiment que de la critique, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Mais qui a une importance, mais ouais, qui, au bout d'un temps, devient peut-être limitée.
Mm. Non, mais c'est vrai. Et par ailleurs... Alors, ce que je regrette un peu, en tout cas, bon, j'espère pas avoir fait de Fanon, voilà, un Sartre noir et tout, mais peut-être que moi, je me suis focalisée sur l'approche existentielle et phénoménologique, et du coup, ça a impliqué un choix, et ça a impliqué aussi de mettre de côté son approche hegelienne, marxiste, enfin, tous ces autres apports, en fait, je les ai un petit peu mis de côté. Et là où je me dis qu'il y a une sorte de limitation, c'est dans la façon dont j'ai quand même insisté beaucoup sur la phénoménologie, comme si c'était un champ, alors qu'en fait, bon, chez Fanon, ça n'a jamais été un champ. Et en même temps, c'était un parti pris, je voulais... montrer que c'était pas juste, qu'on pouvait considérer que c'était de la phénoménologie, qu'on pouvait considérer que leur texte, voilà, appartenait aussi à la tradition et que du coup, ça faisait bouger un peu nos canons, nos images et les bibliothèques, voilà, de ce qu'est la phénoménologie. Donc j'avais envie de faire éclater un peu la définition de ce qu'était la phénoménologie et faire éclater un peu les distinction entre ce qui en serait, ce qui n'en serait pas, le dedans, le dehors, qui en fait partie, qui en fait pas partie, pour prendre au sérieux le fait que leur proposition était une proposition de pensée existentielle ou de phénoménologie. Mais du coup, en un autre sens, voilà, ça instaure un champ, d'une certaine manière. Et je pense que j'ai changé là sur ça, pour le coup.
Je vais te poser une question sur une des choses qui, pour moi, était plus intrigante dans le livre. Il y a des réflexions qui sont passionnantes dans le dernier chapitre et la conclusion, parce qu'elles laissent entrevoir, mais tu es revenu un peu au début, ce que pourrait être avec, mais bon, au-delà d'une phénoménologie de l'oppression, ce qui serait une phénoménologie de la résistance ou des résistances à l'oppression, et plus généralement une phénoménologie de la lutte. Mais tu restes prudente de manière compréhensible parce que ce n'était pas l'objet premier. Tu dégages quelques pistes et je voulais savoir si tu voudrais en dire un peu plus sur ce sujet, ce qui te paraîtrait le plus intéressant de creuser à présent et surtout comment s'articule, même si tu risques de répondre qu'il ne faut pas faire cette différence, c'est un peu ce que tu disais au départ. Comment s'articulerait au sein d'une telle phénoménologie de la lutte, on pourrait dire les perspectives de l'émancipation individuelle? Bon, l'ancrage phénoménologique est plutôt en tant qu'ancrage sur le vécu mènerait plutôt à ça, vers ça, pardon, et l'émancipation collective. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose, si on pousse plus loin, est-ce que quelque chose comme une phénoménologie de masse, comme on parle de psychologie de masse, ou comme dans un truc un peu perspective révolutionnaire classique, ça pourrait avoir du sens. Mais...
Bah, merci.
Un peu Fanon, l'enceinte de la révolution algérienne, c'était un peu ça.
Mais justement, moi, pour moi, l'enceinte de la révolution algérienne, il est hyper important parce que il tient en fait sur un même plan la transformation collective, du groupe et des transformations qui sont sensibles, affectives, qui se jouent vraiment dans chaque corps et dans chaque subjectivité. Et il fait jamais de séparation. C'est en cela qu'il n'est pas marxiste au sens le plus classique du terme, parce qu'il n'est pas que dans cette question de la stratégie ou de la massification, même si c'est une question qui est extrêmement importante dans les damnés avec la question de l'unification du peuple. En fait, cette unification du peuple, elle n'est jamais séparée par ailleurs lui de sa pratique, sa pratique aussi psychiatrique, donc, et de tout son intérêt sur... le changement des sensibilités, la production culturelle, esthétique, quand il en parle. Le renouveau d'un peuple, en fait, c'est aussi un renouveau de la culture et des productions artistiques qu'on fait à un moment donné. Donc aussi, c'est le renouveau d'un rapport au monde qu'on déploie de façon nouvelle. Et en ce sens, oui, il y a une phénoménologie des résistances qui est très importante à penser, notamment parce que justement, elle est difficile à penser parce que la tradition a peu envisagé l'expérience collective. Enfin, ça, du coup, c'est un peu l'intérêt d'une lecture croisée Sartre-Fanon, dans la critique de la raison dialectique, avec tout cet effort chez Sartre pour penser vraiment le groupe. Enfin, comment une société sérialisée, complètement atomisée, où l'oppression est vécue de façon individuelle, où il n'y a plus de lien de solidarité, etc., comment on réussit à reformer le groupe et donc à créer une expérience collective. Et donc ça, c'est une question, je pense, qui est difficile, qu'on doit vraiment travailler et prolonger, cette question de la construction d'une expérience collective qui ne soit pas juste une expérience homogène et qui ne soit pas un aplanissement des vécus irréductibles entre eux, qui ne se rencontrent pas non plus si facilement. Donc c'est la question des alliances, des solidarités, etc. Et en même temps, ça, c'est jamais déconnecté. Donc cette question un peu stratégique, elle n'est jamais déconnectée, à mon sens, de la conviction, malgré tout, que les choses se placent sur le même plan et que il n'y a pas de petits problèmes négligeables, anodins, et des grands problèmes dont on devrait s'occuper de façon pressante, urgente, etc. Et je pense que chez Fanon, ce qui est le plus manifeste, c'est que c'est par sa vie, sa pratique, le fait que la psychiatrie n'est jamais séparée de sa réflexion politique, et que toute sa réflexion sur les sensibilités qui se déploie dans l'an 5, par exemple, il faut la lire, je pense, vraiment avec Les damnés de la Terre et avoir une sorte de lecture un peu continue. De toute façon, ses œuvres, elles ont été écrites à peu de temps d'intervalle. Donc, je pense que c'est important de tenir tout ensemble et que comme ça, ça lui donne une singularité par rapport à une réflexion marxiste plus traditionnelle sur l'idée de massification, de stratégie et tout. En fait, il ne parle pas de massification, il n'y a pas cette question de la masse. Il y a la question de l'unité. Mais l'unité, elle se trouve aussi en soi. Je ne sais pas trop comment dire. Toute cette attention sur les rapports affectifs, familiaux, amoureux qu'on a là dans le premier chapitre de l'an 5, l'Algérie se dévoile, donc toute la réflexion sur le rôle des femmes algériennes dans la lutte décoloniale, c'est une manière de prendre au sérieux le fait que changer la vie, changer les rapports affectifs et familiaux et changer le rapport à son propre corps, tout ça c'est aussi important s'unifier en groupe, lutter collectivement, et de toute façon c'est aussi à cette échelle là de vécu intime que une unification d'un peuple peut se construire. Mais peut-être qu'on a des lectures différentes,
je vais pas commencer à commenter sur Fanon. Non, mais je suis d'accord sur l'essentiel. C'est juste là il y a des questions sur la guerre chez Fanon. On en fait beaucoup. La pensée de la violence chez Fanon rentre bien dans ce cadre-là, mais on oublie que c'est aussi une pensée de la guerre et qui emprunte aux théories de la qui rediscute les théories de la guerre révolutionnaire, qui pour le coup sont parfois très objectivistes, qui sont vraiment pas des questions de vécu, mais il y a un peu les deux qui se mêlent. Mais peut-être je pose une dernière question, après on peut ouvrir les questions. Je pense qu'il est les temps, j'en aurai d'autres s'il n'y en a pas, mais juste ça fait un lien. On en a déjà parlé à une autre occasion, mais il y a pas mal de choses dans ton livre qui me semblent aller dans le sens d'un possible dialogue entre ce que tu appelles phénoménologie critique et une psychanalyse critique. Et certains des auteurs dont tu traites, Fanon bien sûr, mais Richard Wright aussi était proche à certains moments, faisait un certain usage assez important quand même de la psychanalyse. Et psychanalyse critique, ça pourrait être représenté aujourd'hui par des efforts comme ceux de personnes comme Sophie Mandelson et Livio Boni qui ont sorti l'ouvrage Psychanalyse du reste du monde, une psychanalyse ouverte sur les questions, un peu décentrée, ouverte sur les mondes extra-européens et d'autres questions. Alors, je sais un peu, on a vu les résistances que de telles approches pouvaient susciter chez les partisans de l'universalité du sujet et du savoir psychanalytique. J'ai perdu son nom en passant, bon, c'est pas grave. En philosophie, on pourrait donner tout un... Roudinesco, voilà. En philosophie, on pourrait donner plein d'exemples de positions, pour le dire vite, anti-wokistes. Je vois à peu près ce que c'est, je cartographie le champ, mais je voulais te demander plus spécifiquement chez les phénoménologues de profession, en fait, à l'intérieur du champ philosophique, quelles étaient les réactions à ce type d'approche ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Est-ce que s'y exprime, et comment s'y exprime, on pourrait dire, l'eurocentrisme et le phallocentrisme ? Est-ce qu'il y a des résistances de phénoménologues à ce type de recherche, ou qui dirait que c'est plus de la phénoménologie parce qu'on ouvre trop le champ, ou pour d'autres raisons. Voilà. Quelles sont les réactions chez les phénoménologues, et pas les phénoménologues les plus sympas, hein, les autres.
Bah, j'en ai pas trop croisé, en fait, donc c'est pas, je sais, ouais, je sais pas, j'ai pas, je me suis pas confrontée à ce genre de situation, en fait. Parce que du coup, j'ai discuté plutôt avec Nathalie Deprat, qui est vraiment, vraiment phénoménologie féministe, enfin en tout cas très ouverte à ses approches. Et puis Marion Bernard aussi. Et puis voilà, Ouria Bentouami. Donc des personnes qui ont une conception très souple de la phénoménologie. Et je réfléchis, est-ce que j'ai... Ouais, non, je pense pas avoir été... confrontée, ouais, à ce type de réaction, parce que en même temps je me suis pas mise dans des situations où c'est vrai que j'ai peu fait de colloques ou de choses vraiment dans des organisations de phénoménologie classique, parce qu'en même temps je tiens pas non plus extrêmement voilà, à m'ancrer dans ce champ. Là maintenant je travaille quand même sur un peu d'autres corpus. Donc il faudrait tester, quoi, je sais pas trop. Et oui, le collectif de Pantin, ben moi je suis beaucoup leur travail, je trouve que c'est vraiment passionnant ce qu'ils font, hyper fort et enfin théoriquement voilà, très 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 fort, et en plus très stimulant et joyeux, en fait, de penser qu'il y a comme ça ce collectif de travail interdisciplinaire qui se fait en dehors de l'université. Il y en a quand même pas tant que ça, du coup oui, j'y étais allée, j'aimerais bien y retourner, enfin c'est, ouais, je pense que les liens sont importants, et dans l'idéal, à mon sens, il faudrait que les champs soient encore décloisonné, enfin qui est pas comme ça un attachement à la phénoménologie ou un attachement à la psychanalyse, voilà, comme s'il y avait des sortes de frontières, ouais, un peu rigides, et que ça soit, qui est plus une hybridation, comme a fait Fanon en fait dans son travail, et comme on retrouve dans tous les textes de la pensée existentielle. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces corpus, c'est qu'en fait il y a quand même un entremêlement de discours littéraires, psychanalytiques, philosophiques qui est toujours maintenu, et une conviction qu'on n'a pas à hiérarchiser les savoirs et à les cloisonner. Donc c'est une réflexion qui se nourrit d'approches. Et c'est pas de l'interdisciplinarité au sens où les disciplines elles-mêmes, elles sont pas figées, quoi. Enfin...
si vous avez des questions... Nous avons un petit moment, j'imagine, pour discuter. Je ne sais pas si Attendez un autre.
Je ne sais pas si on m'entend, ouais. Ok. Merci pour votre intervention. Je n'ai pas encore eu la chance de lire votre ouvrage. Du coup, j'espère que ma question sera quand même pertinente. C'est parce qu'au début, vous avez assez insisté sur le fait que vous aviez choisi le concept d'oppression pour éviter des logiques de victimes. Du coup, voilà, je voulais savoir si vous pouviez revenir sur ce point-là, sur la problématique liée à la notion, au concept de victime. Aussi, et je pose cette question parce que j'ai l'impression que c'est une critique que je retrouve plutôt chez les mousquetaires de la laïcité, par exemple. Des choses comme ça qui vont venir dire ah, ce sont des logiques victimaires, identitaires, ou des choses comme ça. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez pris en compte. Enfin voilà, comment vous aviez décidé de ça.
Merci beaucoup. Oui, en fait, il ne s'agit pas de. de rejeter le statut de victime, etc. Enfin, comme je disais là dans le film de Wanda, c'est clair que voilà, c'est une figure d'impuissance radicale, ça c'est évident. Donc oui, une victime radicale. Mais en même temps, voilà, c'est un changement de position, c'est un changement de situation d'énonciation, parce que à partir du moment où une personne qui est donc victime, hein, objectivement, disons, d'une situation de violence, va énoncer son oppression, soit elle se sent étouffée, soit elle dit que tel regard est devenu insupportable, enfin, donc le fait même de prononcer ce mot, et donc de parler aussi, en fait, en tant que sujet, et ben ça, c'est déjà une forme de puissance réaffirmée. Enfin, sans vouloir romantiser les résistances et dire qu'il y a des résistances partout, c'est juste qu'il y a un point de vue qui s'affirme quand même. Il y a une perception qui s'affirme, il y a une parole qui s'affirme, au moment même où cette perception, cette parole, etc., se trouve le plus niée. Donc il y a une sorte de paradoxe comme ça qui est assez fort, et qui fait qu'on sort d'un récit accablant. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est une histoire de mise en scène, en fait. De quel point de vue on part, quelles paroles on donne à entendre, comment on sort d'un récit qui serait accablant, qui redoublerait en quelque sorte un peu la violence qui est déjà à l'œuvre, en fait, dans les rapports sociaux et dans des situations de sexisme ou de racisme. Donc, il ne s'agit pas de refuser cette idée de victimisation, mais de montrer que parfois, certaines mises en scène, certains récits, de toute façon, ne font que redoubler et prolonger la violence qui a été à l'œuvre. Et c'est un peu ce que dit Bell Hooks, que je cite en conclusion, lorsqu'elle dit que... Oui, les femmes qui sont à la croisée de situations très difficiles, d'argent, de racisme, de sexisme, etc., bien sûr qu'elles vivent des violences et bien sûr qu'elles en sont victimes. Il ne s'agit pas de nier ça. C'est juste qu'elle dit qu'elles ne peuvent pas en fait, se payer le luxe de se répéter sans cesse qu'elles le sont. Et du coup, la mise en scène va être différente, la manière de parler va être différente, et du coup ça redéploie un peu une forme de liberté et de souffle, quoi. Donc c'est cette question-là du type de mots qu'on emploie, du type de récit qu'on fait, en fait, et de manière de montrer le pouvoir, sachant que, bien sûr, il ne s'agit pas de détourner le regard de situations de violence... très forte, quoi. Enfin...
Oui. Un commentaire et une question. Moi, je vais vous parler du point de vue du théâtre de l'opprimé. Mmh. Souvent, quand on parle de théâtre de l'opprimé, tout de suite, le mot tend à faire peur. Mmh. Dans la réception un peu publique, on dit opprimé, vision dichotomique, dominant-dominé. Voilà. Donc, alors que tout le théâtre de l'opprimé, justement, pour faire montrer l'exploitation, l'oppression, les dominations, du point de vue de l'expérience. Mais voilà, moi, mon intérêt pour être venue ici et pour cette lecture, enfin votre livre, c'est justement à partir de l'expérience, comment est-ce qu'on donne voix à des situations d'oppression. Mais voilà, à vous entendre, d'autres questions me viennent, où j'ai l'impression que justement dans votre usage finalement du mot, quand tout à l'heure en réponse à l'exploitation, vous disiez l'oppression, que je me demandais si ce terme-là ne participe pas d'un certain glissement idéologique contemporain, en fait, où on tend à sortir finalement des problématiques justement d'oppression, de domination, de classe, pour tendre vers des discours d'oppression plus sur l'intime, sur le subjectif, la phénoménologie, et bien qu'il y ait cet héritage matérialiste dont vous parlez, de classe, je sais pas, mais m'est venu un peu est-ce que finalement, enfin, à vous entendre, je retrouve un peu le risque qu'il y a parfois aussi dans le théâtre de l'opprimé ou le théâtre forum, où finalement on va être sur des conflits un peu personnels, sur le bien-être, l'intime, l'émancipation individuelle, et finalement cette dimension vraiment politique. On peut répéter que l'intime est politique, mais finalement que vraiment la question de la stratégie des opprimés, la stratégie politique collective. Révolutionnaire, etc., se perd un peu, ou en tout cas se met en second plan. Et Voilà, et ce n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, mais en tout cas, je mets ça là.
Merci beaucoup. Je ne connais pas assez bien, en fait, le théâtre de l'opprimé, donc il faudrait que... Voilà, que j'explore un peu plus, enfin, pour voir comment je me situe. Mais j'entends du coup le risque et la critique d'une sorte de dissolution, en fait, aussi, du coup, de ce qu'est l'oppression, avec peut-être une idée que tout pourrait être oppression. Enfin, je sais pas, c'est un peu ce que vous visez dans votre question, enfin, cette espèce de dissolution... Voilà, aussi de la violence de classe, etc. En fait, moi, un des enjeux du livre, c'est de dire que... alors oui, l'intime est politique, mais par contre, avant de savoir ce qui est intime, il y a aussi un saut à faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien ne sont pas politisables, ne sont pas matière, justement... à une expérience d'oppression, et donc il y a quelque chose quand même à travailler, en fait, pour arriver à cette expérience. Elle n'est pas donnée, en fait, elle a aussi des conditions politiques. Et un des enjeux de Fanon, par exemple, dans sa pratique psychiatrique, c'est de désaliéner, pour aussi que les personnes puissent ressentir certaines formes de violence comme étant insupportables. Donc il n'y a pas d'évidence, en fait, de cette expérience d'oppression. Elle n'est pas donnée. Et en ce sens, il ne peut pas y avoir de... Je pense de dissolution ou d'égalisation. En fait, il y a une forme de vérité dans cette expérience d'oppression. Et du coup... Ce qui fait qu'elle n'est pas si évidente que ça. Enfin, et que tout le monde voilà, ne peut pas la vivre, la formuler de la même manière. Et que, je ne sais pas, avoir chaud, ce n'est pas une expérience d'oppression. Enfin, je veux dire, pour que ce soit une expérience politique, il faut que, voilà, y ait certaines conditions qui sont réunies, qui soient réunies, qui la rendent possible. Du coup... sur ces questions de bien-être, etc. Voilà, pour moi, ça serait comme des sortes d'expériences qui sonneraient faux. Enfin, qui... Je sais pas comment... Je sais pas si je vise bien ce que vous vouliez dire, mais... Je pense qu'il y a une forme de vérité quand même à approcher dans une expérience d'oppression et dans son énonciation. Et que du coup, il y a une réflexion à mener sur cette question-là de la vérité. Non, mais après, c'est un terme aussi, du coup, qui est employé parce que les corpus que je travaille l'emploient. Enfin, du coup, c'est un terme qui est hyper important chez Sartre, chez Fanon. Donc, dans toute cette tradition-là aussi. Et moi, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas... Dans ce que j'entends, en tout cas, j'ai l'impression que le terme il est utilisé dans des traditions radicales, quoi. Enfin, pour parler de l'oppression coloniale, enfin.
Il est utilisé dans le corpus, mais je pense que c'était ce qui était dit. Il était utilisé dans le corpus marxiste. J'y repensais, notamment dans l'opposition entre les nations opprimées, nations oppressives. Je ne sais jamais comment on dit nations oppressives et nations opprimées. Enfin, oui, il y a tout un langage de l'oppression. Qui venait de là.
En fait, il y a deux choses dans votre question. Je pense que un des points... Oui, c'est vrai que c'est un terme qui a donc une histoire que je retrace dans l'introduction. Donc, il y a voilà, des emplois dans les usages ordinaires. Et en même temps, après, moi, ce que j'en fais, c'est de travailler ce terme comme un concept parce que voilà, c'était compliqué, enfin, d'écrire sur l'expérience de la domination. En fait, je le sentais pas comme ça parce que c'est un terme qui est pas employé dans les corpus que je travaille et que, pour le coup, c'est aussi très chargé. Enfin, domination, je veux dire, il est très présent aussi dans les théories critiques actuelles. Donc, et expérience du pouvoir, pour le coup, voilà, ça me paraît être un héritage des années 60-70, mais qui peut-être suffit plus. Ça ne veut pas dire que mon approche, elle est exclusive voilà, de tout le du post-structuralisme, de Deleuze, Guattari, Foucault. Enfin, moi, c'est aussi un de mes ancrages très forts. Donc, il n'y a pas de sorte de retour comme ça à la pensée existentielle contre la tradition post-structuraliste. Enfin, du coup, c'est aussi pour ça que dans le premier chapitre, en fait, je commence par le post-structuralisme et que j'essaie justement de renouer, enfin, de faire dialoguer un peu ces traditions qui ont été opposées. Donc moi, dans mon appréhension des rapports sociaux et du pouvoir, je pense que voilà, l'apport de Deleuze, de Foucault, etc. est extrêmement important et qu'on a besoin de ces corpus-là pour penser les situations de violence. Après, je sais pas, en fait, c'est un terme que je croise tellement dans mes corpus que c'était difficile, je pense, de le mettre de côté. Ce qu'il y a dans votre question de très important, je pense, c'est le fait malgré tout que bon, ça crée une binarité, ça crée une opposition. Il y a un oppresseur, il y a un opprimé. Voilà, on est dans un schéma binaire qui justement a été compliqué par le post-structuralisme et on sait bien que les choses ne marchent pas toujours comme ça. Mais parfois, elles marchent aussi comme ça. Et du coup... Oui, vas-y, bien sûr.
Je pensais à quelque chose, c'est quand tu parles des corpus, moi il m'a semblé qu'on travaille sur la littérature africaine-américaine, pensée antiraciste, en fait tous les partages qu'on croit un peu donner, qu'en fait de l'histoire de la philosophie contemporaine, entre avant mai 68, après, l'hegelianisme massif des années 30 à 50, tout d'un coup tout le monde devient anti-hegelien, deleuzien, foucaldien, en fait ces partages, ils sont très... centré disciplinairement et centré continentalement, il me semble. Et en fait, on a tendance à voir, en fait, ça marche plus très bien dès qu'on va voir Fanon. En fait, c'est pas un pur hegelien comme on les aime plus. Enfin, moi, je les aime encore un peu, mais et c'est pas non plus un pré-post-structuraliste. Je veux dire, c'est aussi une manière de, il me semble, sur ces de re-questionner ce qu'on croit donner sur une certaine histoire. Spontané de l'histoire de la philosophie et de l'histoire politique en même temps, il me semble. Donc, parfois, moi, quand je travaillais sur Fanon, il fallait réactiver des mots qui semblaient un peu désuets. En fait, c'est dur de. Il y a tout un langage un peu désuet. Et en fait, c'est pour ça qu'à mon avis, Fanon a été dur à relire en France pendant longtemps. Il a fallu la médiation nord-américaine pour aider à ce type de relecture. Mais. Je ne sais pas comment dire, c'est le Richard Wright, en effet, sans penser l'oppression, que relire quelqu'un comme Richard Wright est quasiment impossible, il me semble. Mais bon, pour en prendre qu'un que je connais un peu.
C'est des choses que vous avez pas mal. Merci beaucoup pour ce retour. Et c'est vrai que oui, le travail de Norman Ajari avait été très important. Pour moi, la thèse et puis le livre « La dignité ou la mort ». Et sur cette question des savoirs, c'est une question très importante parce que, justement, un des objectifs du livre, c'était aussi de brouiller un peu la question « inconscience de l'oppression », donc « aliénation » versus « prise de conscience, lucidité complète, voilà, savoir plein sur une situation. Et du coup, de penser des formes de savoir aussi qui sont plus troubles, qui viennent un peu, voilà, un peu aussi comme tu avais fait dans ton livre sur Fanon, Mathieu, cette idée que voilà, Fanon nous aide à penser, à dépasser la dichotomie entre conscience et inconscience. Enfin, y a une réflexion quand même fine sur les formes de perception aussi d'une situation de violence. Et du coup, y a toute une dimension du travail qui portait sur une sorte de critique du schéma de la prise de conscience pour envisager les choses en termes de modification de la perception. Et du coup, modification de la perception, ça veut dire qu'il y a de la pensée, ça veut dire qu'il y a... Il n'y a pas lieu d'opposer la réflexivité à l'affectivité, mais voilà, dans la perception, il y a une vision, il y a un savoir d'une situation qui est fort et en même temps qui ne se résume pas à une sorte de prise de conscience réflexive comme la pense la philosophie. Et ça, c'est les textes de Richard Wright qui permettent bien de saisir ça. D'ailleurs, il l'appelle la double vue, double vision, ouais, en écho à Du Bois, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Puis le point de vue de la grenouille, enfin, il y a tout ce travail sur la question d'une perspective qu'un sujet opprimé peut avoir sur la situation de violence qui lui est faite et en quoi ce savoir-là n'est pas réductible à une sorte de prise de conscience ponctuelle, soudaine, réflexive. Donc il y a aussi des savoirs qui sont de l'ordre d'un changement de perception. Et ça, pour le coup, la phénoménologie nous aide à penser ça parce que la conscience n'est plus pensée sur un mode idéaliste, en fait, et selon l'idée d'une seule réflexivité. C'est entendu au sens large, justement, avec cette importance de la perception.
S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut lever le camp, continuer de façon plus tranquille, moins assise. Merci beaucoup, Mickaël Provost, d'être venu présenter votre livre.
Merci à vous.
C'est l'expérience de l'oppression, une phénoménologie du sexisme et du racisme, et c'est paru au PUF. Merci Mathieu Renaud d'avoir assuré la modération. Bonne soirée à vous. Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.